Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet vraiment important parce que c'est probablement celui qui nous empêche le plus de vivre. À chaque jour m'apporte un exemple de difficulté à vivre due à nos croyances limitantes. Alors, je voudrais déjà que sur une échelle de 1 à 10, vous me disiez comment vous ressentez votre estime de vous. C'est-à-dire votre amour de vous. Je m'aime, je m'estime une personne valable. De 1 à 10, mettez-moi un peu votre estimation. J'aimerais bien savoir. Donc de 0 à 3, de 4 à 7, de 7 à 10. Allez-y, il y a un petit compteur qui va apparaître et on va voir un peu l'état de notre estime de nous. C'est-à-dire vraiment, j'ai confiance en moi, j'ai une bonne estime de moi, je m'aime telle que je suis une personne formidable. Vous savez que je termine tous mes programmes et toutes mes connexions avec vous en disant, voilà, vous êtes une personne formidable. La personne formidable, elle est au cœur de vous. C'est cette pépite qu'on va aller libérer. Donc, allez-y, répondez. Pour l'instant, on est à… Ah, les 0 à 3 commencent à monter. Ça ne va pas. C'est triste. Est-ce qu'il y a encore des réponses? Allez-y très vite, comme ça on va pouvoir fermer le sondage. Là, on est à 35% de 7 à 10. Donc, on a un tiers de notre groupe de ce soir. On est une centaine de personnes sur les 600 inscrits, dont d'autres arrivent. On a 38% de 7 à 10, une grosse moitié de 4 à 7 et 10% de 0 à 3. Bon, très bien, très bien. 40, d'accord, oui. On a la moitié, je dirais, qui sont de 4 à 7. OK. Alors… Vous savez, on a tous un très grand potentiel de vie. La vie est un processus illimité et nous pouvons obtenir beaucoup plus que ce que nous nous autorisons à vivre. Alors, est-ce que vous avez parfois la sensation de vivre en dessous de votre potentiel, en dessous de vos rêves, en dessous de ce que vous portez au cœur de vous? On pourrait presque dire en dessous de ce que, enfant, vous rêviez de devenir, de ce qui vous faisait rêver. Est-ce qu'il y a des situations dans lesquelles vous ressentez des émotions qui vous dépassent ou qui vous emportent ou qui vous font souffrir? Par exemple, ça peut être de la honte, ça peut être de la culpabilité, ça peut être de la peur. Parce que tout ça crée des grands stress. Et comme je vous le disais, moi je suis, pas seulement parce que je suis d'une nature optimiste, mais parce que je connais la vie à 120 ans, pour ceux qui me connaissent, j'en ai vu des choses, je crois profondément et j'ai pu observer qu'on a tous un merveilleux potentiel. Et il suffit de le décider et surtout de mettre fin aux souffrances qui nous empêchent d'être nous-mêmes et puis de nous débarrasser de tous les boulets qui nous envahissent et des limites qui nous envahissent. Alors, ce soir, ce que je vous propose d'explorer avec vous, c'est justement le champ de nos croyances. Alors d'abord, d'où elles viennent, ce qu'elles disent de nous et pourquoi nous débarrasser de nos boulets pour nous autoriser à vivre pleinement. La plupart de vous me connaissez, mais tout le monde ce soir ne me connaissant pas, je vais en quelques mots me représenter. Donc je suis Edith Lassia, vous le savez. Je suis la coach des femmes solaires. Ça n'exclut pas les hommes, mais j'ai observé, et ce soir on le voit encore, que 80 à 90% des personnes que j'accompagne qui viennent, ce sont des femmes. Peut-être que les femmes sont plus enclines à aller réfléchir à elles-mêmes. Il y a quand même des hommes audacieux qui viennent. Mais donc, je suis la coach des femmes solaires. J'ai développé à la fois une carrière importante, puisque j'ai fait 20 ans de marketing à de très haut niveau. 20 ans d'art comme peintre, sculpteur, 20 ans d'auteur avec plusieurs livres et puis surtout 30 ans de développement personnel depuis. Donc ça, ça a été vraiment quelque chose de très, très fondamental dans ma vie. Et je suis mariée depuis 30 ans. Donc, ce que j'aime bien dire, c'est j'ai réussi finalement à vivre à la fois ma carrière et mon couple sans me perdre et en étant, en apprenant les clés. Surtout en apprenant les clés, parce que ça ne m'a pas été livré sur un, dans mon berceau. Hein. En apprenant les clés pour développer l'estime de moi, ma confiance en moi, pour mener de front une vie qui me ressemble, pour vivre une vie qui me ressemble. Ça n'a pas toujours été simple parce qu'il se trouve que dans mon histoire, moi j'ai un grand frère de 10 ans, mon aîné, qui a une enfance plutôt souffrante, une jeunesse souffrante et qui m'a fait toucher du doigt que ça n'est pas toujours simple d'être heureux et de se trouver. Il m'a beaucoup appris, c'était finalement un enseignant au travers de sa souffrance et il m'a aussi beaucoup demandé. Et donc, j'ai aussi appris à, d'abord à respecter la souffrance de l'autre, mais à l'aider à s'en sortir. Et ça, ça a été quelque chose de très, très, très important dans ma vie, de comprendre qu'il y a des clés, quelle que soit la douleur dans laquelle on est, pour s'en sortir. Et d'ailleurs, ce frère que j'adore va très bien maintenant. Mais ça a été tout un travail et qui m'a, moi, beaucoup touchée parce que ça a commencé, j'avais 9 ans, 8-9 ans. Voilà. Donc ça, c'est pour mon histoire. Et surtout, j'ai appris à m'aimer telle que je suis. Et ça n'a pas toujours été simple. Mais on va en parler tout à l'heure dans les petites histoires. Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance ? Je vais vous donner l'image d'un poisson dans son bocal. Vous savez que j'aime bien parler en image parce que c'est ce qui nous touche le plus, c'est ce qui nous éclaire. Alors, qu'est-ce que c'est l'image du poisson dans son bocal ? C'est un petit poisson rouge dans son petit bocal avec ses petites fleurs, les pierres. Il est dans son petit univers et il tourne, et il tourne, et il tourne. Et il a l'impression qu'il est dans l'océan. Pour lui, c'est son bocal avec son eau. Il y est bien, il n'y est pas bien, il a faim, il a froid, mais il y est. Et puis tout d'un coup, on le prend et on le met dans l'océan. Et là, il découvre la liberté. Il découvre que tout est possible. Et c'est un peu l'histoire de nos vies. On vit souvent dans un petit bocal. Il faut sortir de notre bocal pour aller découvrir de vastes espaces. Je peux donner une autre image. On va rembobiner. Notre vie, c'est un film. Et ça commence dès l'enfance. La naissance, le bébé, l'enfance, tout ce qu'on traverse, ça commence tout petit. Et il y a des acteurs, il y a un script, c'est l'histoire que nos parents, notre famille va construire, puis il y a nous dedans. Mais on est embarqué dans un film, on n'est pas du tout l'auteur à ce stade-là. Et il y a une troisième image, parce que chacun va avoir sa sensibilité pour bien intégrer ça, parce que c'est le fondamental, c'est notre univers de référence, c'est-à-dire ce qui nous semble être la réalité, puisque c'est dans ça qu'on vit depuis le début, c'est aussi l'oiseau dans une cage. Imaginez un oiseau dans une cage, au début c'est pour le protéger, donc il y a les petits barreaux. Puis petit à petit, c'est aussi pour l'empêcher de s'envoler, on ne veut pas le perdre l'oiseau. Eh bien, les croyances c'est un peu ça. C'est à la fois le bocal, c'est à la fois ce script et c'est à la fois ces barreaux de la cage. C'est-à-dire, c'est devenu notre univers, ça nous protège un peu, ça structure notre identité, toute notre histoire, le script. Et surtout, il y a un moment, ça nous empêche de nous envoler. Sortir du film en racontant une autre histoire, sauter dans l'océan en quittant le petit bocal ou simplement effacer les barreaux ou ouvrir pour pouvoir s'envoler. Et tout ça, c'est devenu tellement naturel qu'on ne s'en rend pas compte. C'est notre univers et c'est notre monde intérieur. Alors, nous percevons le monde à travers ses croyances. Le petit poisson, il voit le monde à travers son bocal, l'oiseau à travers sa cage, et nous à travers notre film. Les couleurs qu'on nous a données, les décors, les paysages, les vocabulaires, tout est là, bien calé. C'est un filtre donc, c'est une façon de voir le monde, mais qui n'est pas la nôtre, elle nous a imprégnés. C'est ce qui nous guide, ça sous-tend nos pensées, nos façons de voir les choses, donc nos choix, donc nos actes, donc nos résultats, donc notre vie. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire des croyances, c'est que, par exemple, je vais vous donner l'histoire de l'argent. L'argent dans une famille, on a dit, et ça c'est très culpabilisant, et c'est presque la culture religieuse qui a un peu imposé ça par rapport à l'argent. Bon, l'argent c'est sale, par exemple, c'est une croyance, l'argent c'est sale. L'argent, puis ça rend égoïste, et puis ça éloigne des autres, ça fait paraître. Donc, avec cette croyance-là, ben, j'ai du mal à en gagner. J'ai peur d'en gagner. Mon Dieu, si ça me changeait. On le voit d'ailleurs dans les gens qui gagnent tout d'un coup au loto. Ça bouleverse tellement leur univers que beaucoup ben, explosent en vol. Ou alors dépensent tout très vite, perdent tout très vite. Très peu savent le gérer. On ne sait pas si c'est bon pour soi. On ne sait pas comment le prendre. Ou alors on dit on ne mérite pas. Donc ça, c'est un exemple de croyance qui est vraiment structurant en nous. Ou l'amour. L'amour, c'est compliqué. Oh, puis de toute façon, ça ne dure pas. Donc, j'ai des clientes comme ça pour qui l'amour, c'était compliqué. Ça venait de papa, maman, des divorces ou des trahisons. Et donc, dès qu'une relation est un peu impliquante, fonctionne, hop, on en sort. On la bousille avant qu'elle s'installe, de peur qu'elle nous échappe. Alors, dans les croyances, il y a à la fois des croyances positives et des croyances négatives. Les croyances positives, pour vous donner un exemple, ça peut être des parents qui nous ont valorisés, des professeurs qui ont cru en nous, une première histoire d'amour qui nous a bien posé de belles bases. Et ça, ça a renforcé chez nous l'estime de nous. Alors, moi, j'ai eu la chance finalement d'avoir quelques belles croyances positives qui m'ont été données. C'est peut-être pour ça que je suis à cause des femmes solaires et pas des... Voilà. Ça a dû me... beaucoup impliqué chez moi, mais par exemple, mon père, qui est mort, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, qui est mort il y a 3 ans dans des conditions magnifiques, en me léguant vraiment des phrases de grande sagesse, notamment « vie de toi, toi qui aimes tant le vide, tu cherches toi à te remplir », ça c'est encore autre chose. Mais donc, par exemple, lui me disait « tu es vraiment une fille brillante, tu es douée pour les études, puis de toute façon tu es belle ». Et puis donc, il m'a renforcé l'estime de moi. Considérablement. Donc, me voyant belle et intelligente dans les yeux de mon père, ça m'a évidemment aidée, même si à côté, j'avais aussi la croyance que ça n'était pas toujours si simple d'être bien, puisque je voyais mon frère qui, lui, était dans une situation un peu l'opposé. Ou un professeur, les professeurs qui me disaient, travaillant un peu, vous ferez de très grandes études, vous êtes vraiment... On me stimulait. Mon premier amoureux, peut-être aussi. Tout ça, ça peut avoir joué. Ça a fait créer des croyances positives que je suis capable de. Mais on a aussi des croyances négatives, à l'inverse. Et j'en ai comme tout le monde, évidemment. Et on a tous, heureusement, et des croyances positives et des croyances négatives. Alors, des croyances négatives, on les appelle limitantes. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où elles sont négatives, elles vont nous limiter dans nos possibilités d'agir et de grandir. La croyance positive, puisqu'on m'a dit que j'étais douée pour les études, j'ai fait de belles études. Ça m'a poussée, ça ne m'a pas limitée, ça m'a poussée. Mais à l'inverse, je vais en raconter une autre. Et je me souviens, j'avais 16 ans, j'étais sur la plage, j'ai seins nus, mon frère qui me dit oh, « t'es copieuse ». Il m'a filé une super croyance, c'est que je n'étais pas belle avec des gros seins. Et ça m'a tenu des années. Parce que pour moi, ce n'était pas possible. C'était quelque chose, ça ne pouvait pas être bien. Mais c'était d'autant plus une croyance que dans son mot « copieuse », c'était beau. Ça voulait dire qu'il y avait la générosité. Mais moi, je l'ai mal entendu. Je ne l'ai pas cru comme ça et j'en ai fait une croyance. Je ne suis pas belle parce que j'ai trop de poitrine. Ça, c'est un truc vraiment d'une croyance limitante que j'ai construite à partir d'une écoute faussée vue de ma fenêtre de ce que j'ai entendu. Je me suis ancienne d'un prof d'allemand. J'étais très, très mauvaise en allemand au début. Puis un jour, j'ai une bonne note, il me met comme « vous avez dû avoir une très bonne voisine ». L'insulte, ça veut dire que j'avais triché. Ça m'avait beaucoup marqué. J'ai cru que je n'étais pas du tout douée en allemand, ce qui s'est avéré faux, puisqu'après, en retravaillant dans un autre contexte avec un autre prof, j'ai pu exposer la chose. Ou une autre croyance, par exemple. Ma mère me disait « ma chérie, bonne ne s'écrit pas avec un C ». Pendant des années, à la limite, j'avais tellement peur de me faire avoir que je me faisais avoir. Parce que je choisissais finalement des relations qui pouvaient me vampiriser. Puisque j'étais bonne, ben je devenais conne. C'est-à-dire qu'on finissait par me me prendre plus que ce que je n'avais besoin de donner, et sans forcément le respect. Et ça m'a appris le discernement. Parce que quand j'ai compris que bonne, c'est, ça peut s'écrire avec un C ou pas, et qu'on peut être bonne et qu'il y a un amour universel avec du discernement qui permet d'être généreux sans être con, puisque c'était l'enjeu de cette phrase, j'ai pu redresser cette croyance et en faire autre chose. Donc, les croyances limitantes, elles vont à la fois nous empêcher de vivre au début, puis quand on les reconnaît, on va les changer, on va les transformer, puis on va les remplacer par une autre, comment dire, une autre croyance. Bonne ne s'écrit pas avec un C, est devenu. En étant avec du discernement, je peux exprimer ma générosité naturelle sans me faire avoir. Vous voyez le passage d'une croyance limitante avec les implications, donc ces personnes vampires qui m'ont accompagnée pendant quelques temps, et ensuite la conversion. Alors, le problème des croyances, c'est que on n'en est pas conscient. C'est les autres qui nous renvoient l'image de nos croyances. Alors, comme j'adore les histoires, je vous en raconter une autre. C'est celle de la grenouille. On la met dans l'eau froide. Et puis, on monte la température. La température monte, un petit peu tiède. C'est bon, c'est encore plus tiède. Puis chaud. Puis, on sent d'inconfort, mais oh, ça va redevenir tiède. De toute façon, c'est pas, on ne réagit pas parce qu'on ne sait pas qu'on est en train de nous monter la température. Et puis, il y a un moment où ça devient vraiment très, très chaud. Mais on n'a toujours pas compris d'où ça vient. On n'est pas bien du tout, mais on ne sait pas qu'il y a quelqu'un qui a monté la température. Et on finit par mourir cuit à petit feu. Ben, les croyances, c'est ça. Elles sont distillées petit à petit, parfois de génération en génération, sur l'argent, sur l'amour, sur tout un ensemble de thématiques fortes. Et elles montent en puissance avec le temps, mais on n'est pas capable de les identifier parce qu'on ne nous balance pas ça comme un gros boulet tout d'un coup. C'est plein de petites évidences comme ça, dues à la famille, dû à notre histoire, dû à ce qui arrive à nos parents, qu'on nous met petit à petit comme ça dans notre besace. Alors, il y a trois clés vraiment importantes à comprendre pour se débarrasser de nos croyances limitantes. Donc, pour retrouver cette liberté, cette maîtrise de nous, cette confiance dans la vie et qu'on a tout en nous, puisqu'on a une estime de soi, c'est qu'on a tout en soi pour faire les choses, et de ce fait, on va avoir de plus en plus de confiance pour les faire. La première clé, c'est d'abord de les reconnaître, de les débusquer, je dirais, parce qu'elles se cachent. Elles ne sont pas du tout évidentes, et on est, comme je vous le disais à l'instant, souvent les derniers à les voir. Reprenons le cas de l'argent. Moi, souvent, maintenant je suis coach de coach et je vois autour de moi des gens qui, avec des talents incroyables, avec des vrais métiers, avec des expertises, avec des dons, ne s'en sortent pas, ne vivent pas de leurs talents. Et parfois, je leur dis, mais comment c'est possible qu'avec tout ce que tu sais faire, toutes les qualités que tu as, tous les métiers potentiels que tu as, tu n'as à en vivre. Quand on dit ça à quelqu'un, tout d'un coup, il est interpellé. Il dit, mais attends, donc j'ai toutes ces qualités, donc j'ai toute cette expertise. Et c'est vrai que je n'arrive pas à en vivre, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne m'autorise pas à le faire? Et quand on creuse un peu, on va se rendre compte que le rapport à l'argent est quelque chose de très compliqué. C'est une des thématiques les plus phares des croyances limitantes. Le rapport à l'argent, la représentation de l'argent, ce que l'on vaut par rapport à l'argent et comment on peut, je dirais, définir le seau qui nous correspond, le niveau de confort, de liberté que ça octroie. Donc, tant qu'on n'a pas reconnu, on ne peut pas le voir. On est juste dans son bocal. On revient à l'image du bocal. Mais quand plusieurs fois, des personnes qu'on respecte, des coachs, des mentors, des amis. Dans le couple, c'est parfois plus difficile parce que justement, on est tellement imprégné de nos propres croyances que c'est plus compliqué. Mais quand l'autre nous renvoie tout d'un coup l'image de ce que l'on pourrait dégager et qu'on voit qu'il y a un décalage énorme entre Ils me voient comme ça, avec plein de richesses, plein de talents, plein de dons. Et moi, je ne les vois pas. Moi, je me vois, oui, bon, je sais des trucs, mais enfin, ce n'est pas très important. Enfin, bon, oui, puis je ne peux pas en vivre, etc. On voit tout de suite que c'est une croyance que l'on n'est pas tout ce que l'on est vraiment, parce qu'on s'est limité. Comprendre nos croyances, c'est la deuxième clé. Et pour changer nos lunettes, il faut les comprendre. Or, pour les comprendre, il faut rembobiner. Là, on va prendre l'image du film. Il y a une phrase que j'adore. Vous savez, j'ai travaillé pendant 20 ans, maintenant, c'est même presque 30 ans, dans les constellations systémiques et familiales, c'est-à-dire la façon d'aller comprendre tout ce qui, en nous, a été déposé par l'histoire familiale, tout ce que nous avons hérité de nos parents, nos grands-parents, voire arrière-grands-parents. Tout ce qui petit à petit nous a donné une identité, donc avec ses croyances, avec ses modes de fonctionnement, ses regards sur le monde. Et il y a une phrase que je trouve vraiment très intéressante, c'est celle de Bruno Clavier, qui est un psychanalyste, qui dit « Ce qui résiste en nous ne nous appartient pas. » En effet, parfois on dit « Je veux me débarrasser de cette croyance, mais ça reste. » Je mérite l'argent, je vais gagner de l'argent. Mais pourtant, ça reste. On n'y arrive pas. Il y a quelque chose qui bloque en nous. Parce qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris d'où ça vient, que ce sont nos parents, nos grands-parents qui ont, au fil des générations, construit ça, tant qu'on ne l'a pas compris, on ne peut pas s'en débarrasser. Parce que ça va s'exprimer à travers nous. Je vais vous donner un exemple. Une femme qui s'avère être ma mère m'a toujours dit « Tu sais, c'est important de travailler. Regarde comme ton père a été courageux. Il a travaillé toute sa vie. Et mon père était un homme très courageux. Tu sais, il a beaucoup travaillé. D'ailleurs, il a réussi, mais il a beaucoup travaillé. Oh, il a réussi très bien. Mais quel courage !» Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai beaucoup travaillé. Quand j'ai 120 ans, parce que j'ai fait tous ces métiers, ce n'est pas un hasard. Mais c'était plutôt positif. Mais quand même, il est très important de travailler. C'est important, la valeur travail. Donc, pour moi, la croyance était qu'il fallait que je travaille énormément pour m'en sortir. Par chance, j'ai travaillé que dans ce qui me passionnait. Donc, je n'avais plus l'impression de travailler, mais de vivre simplement quelque chose d'essentiel. Mais j'ai compris au fil du temps que parfois, j'allais trop loin au risque du burn-out parce que j'avais cette conviction intime que travailler était important. Et je me surprends encore parfois à dire « Oh là là, mais j'ai mis beaucoup de temps pour faire ça. Puis qu'est-ce que je travaille en ce moment ?» Puis il y a une petite voix maintenant qui me dit « Mais attends, d'abord, est-ce que c'est utile de le dire ? Puis est-ce que c'est vraiment si utile ? Et est-ce que ce n'est pas au détriment d'autre chose ?» Vous voyez comme les croyances peuvent être à la fois positives et impliquantes, comme elles nous forcent à être parfois ce qu'on n'est pas, ou nous forcent au-delà de nos limites. Le burn-out, par exemple, c'est vraiment typique d'une personne à qui on a dit « Travailler, c'est important, c'est courageux, c'est bien, c'est une valeur. » Et on y va. Et souvent, dans les femmes en entreprise, on voit bien, on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on nous a dit que pour atteindre le niveau des hommes, c'est une croyance aussi, eh bien, il fallait travailler plus qu'eux. Okay. Donc, les croyances, elles peuvent se glisser partout. Dans la société, dans nos propres familles, dans notre couple. Et elle nous amène à agir parfois au détriment du bon sens. Vraiment l'exemple, argent, travail, burn-out, je suis sûre que ça vous parle. C'est le côté, je dépasse mes limites, parce qu'un moteur me pousse à aller toujours, toujours plus loin, au-delà de mes limites. Ça, c'est un des problèmes des croyances limitantes. C'est qu'elles nous limitent et elles nous forcent à sortir de nos limites, à aller plus loin, à nous dépasser de façon négative, c'est-à-dire à ne plus nous écouter. Alors, les loyautés familiales, c'est vraiment ça. C'est le bain dans lequel on a grandi, le bain culturel. Les mots, les actes, les choix, les croyances avec lesquelles on a l'impression d'avoir un monde complet, c'est notre univers, et c'est comme ça et pas autrement. C'est presque une évidence, on ne se pose plus la question. Donc la première clé, on a bien compris, c'est les reconnaître et les débusquer. La deuxième, c'est de les comprendre. L'articulation que je vous ai montrée, c'est une façon d'aller comprendre une croyance. Et la troisième, c'est au bout d'un moment de dire « je choisis ma vision du monde » pour me libérer de ce qu'on pourrait appeler mes boulets. parce que ces croyances ne me vont plus. Elles m'épuisent. Elles m'empêchent de vivre ma vraie vie. Je sens bien que je ne suis plus en harmonie. Au fond de moi, ça ne va pas. Il y a mon corps qui n'est pas bien. Je ne me sens plus à ma place. Je me sens fatiguée. J'ai plus d'énergie. J'ai plus de désir. Là, alerte rouge, c'est que vraiment nos croyances ne nous conviennent plus. Elles peuvent avoir convenu d'ailleurs une partie de notre vie et ne plus nous convenir parce qu'on évolue. Et ça, là, c'est l'image du film que je peux rajouter sur cette partie de choisir notre vision du monde. Donc, on a notre enfance et notre cerveau qui a tout enregistré. Ça a créé un film avec des images clés, des lieux, des acteurs, des musiques, des espaces, des couleurs, etc. Puis à un moment, on se dit, mais ok, mais ça appartient au passé, moi j'en veux plus. Je veux passer à autre chose. Et pour passer à autre chose, il faut dire, je veux devenir la réalisatrice, la scénariste de mon film. Et pour ça, la vraie clé, c'est d'aller reprogrammer le cerveau. C'est-à-dire, lui redonner des nouveaux accès, des nouvelles clés, remplacer un vieux programme. L'argent, c'est sale, pas. Mais l'argent, c'est quelque chose de finalement très juste et c'est la façon dont je vais l'utiliser. L'amour, c'est compliqué. Ben, non, l'amour, si j'ai la bonne personne en face de moi, après tout, je m'aime, je vais attirer la bonne personne, c'est quelque chose de normal, etc. Donc, c'est aller prendre conscience et transformer petit à petit des croyances qui ne nous conviennent plus, quelles qu'elles soient, en quelque chose de positif qui va nous aider à grandir. Alors, je vais prendre quelques minutes parce que je vois qu'il y a beaucoup de commentaires. Il y a Eric qui dit au revoir, l'écoute n'est vraiment plus possible. Bonne soirée à vous autres si vous avez une bonne liaison. Ben, Eric l'aura en podcast. La liaison devient de plus en plus hachée. Oui, donc ça doit être chez Eric. Est-ce que vous m'entendez bien et vous avez une bonne liaison? Mettez-moi mettez-moi dans le chat si vous avez une bonne liaison. 7-8, d'accord, pour Gigi. Patricia, oui. D'accord. Donc, c'est peut-être Eric qui a un problème de réseau en Haute-Savoie. Ok. Bon, vous avez tous une bonne liaison. Donc, je reprends. Eric, on lui enverra le lien pour qu'il ait le podcast. Très bien. Alors, je voudrais raconter... C'est la soirée des histoires. Mais comme de toute façon, les croyances sont des grandes histoires qu'on se raconte, franchement, c'est le moment idéal pour raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire que vous avez promise, c'est celle de Daphné. Daphné est une personne vraiment magnifique. C'est une personne qui a 30 ans maintenant et qui, à 19 ans, a été opérée d'une coxarthrose. C'est-à-dire qu'elle avait un problème de hanche, on lui a mis des hanches artificielles, des hanches en titane. Et 11 ans après, elle boitille un petit peu, elle ne va pas nager. Quand elle arrive à la gare Montparnasse, elle demande une chaise roulante. Elle a peur d'ouvrir les jambes, donc elle ne peut pas aller nager dans l'eau, ce n'est pas possible, elle ne peut pas danser. Puis comme elle se sent un peu diminuée, on va dire, entre guillemets, elle a une petite hypersensibilité, timidité qui apparaît. Donc, elle parle avec une petite voix, elle n'ose pas vraiment s'exprimer. Et puis finalement, elle n'ose pas vraiment vivre sa vie pleinement. Et Daphné et moi avons travaillé pendant une semaine, on a fait un vrai atelier, une semaine ensemble, pour aller voir toutes les croyances qu'il y avait derrière ce... Ben voilà, j'ai eu une coxarthrose il y a 11 ans et aujourd'hui, je suis très fragile et je ne peux rien faire. Et on a commencé un travail, toutes les deux, en 6 jours, en 6 étapes. Et aujourd'hui, elle a commencé par monter les 6 étages qui l'amènent à son appartement. Au début, un petit peu essoufflée. Puis après, c'est 6 étages, plus 5 pour aller voir une amie, plus les escaliers du métro. Quand elle arrive à la gare, elle marche avec ses bagages. Et puis, elle va marcher en ville. Et puis, tout d'un coup, puis elle s'est mise à nager. Puis, elle a envie de danser. Elle a envie de vivre. Et quand on a vu ensemble comme le travail qu'on avait fait toutes les deux a été aussi transformant, elle m'a dit, dis donc, ça m'a tout chamboulé. C'est un vrai chamboule-tout qu'on a fait ensemble. Et figurez-vous que de ce chamboule-tout qu'on a vécu ensemble, j'ai eu envie de penser, de créer un programme qui permette à tout le monde, non pas de passer une semaine avec moi parce que ça serait hors de propos, mais de créer un programme qui permette de traverser toutes les étapes qu'a traversées Daphné pour se révéler à elle-même.